1222, Michel Bonnet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous voilà toujours fidèles à nos pérégrinations avec, en compagnie de Raymond VII. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier. On a déjà évoqué un peu la semaine dernière. Enfin, c'est l'époque qui est comme ça. Mais enfin, là, le 6 mars, on est obligé de penser au 7. Le 7 mars, c'est les grandes manifs, etc. Donc, on peut quand même pas oublier l'actualité. Et justement, je réfléchissais à ça. Et une manif, ça comporte pas mal de choses, mais normalement, c'est une marche. Et c'est intéressant de regarder cette question de la marche quand mort revendiqué, etc. Et en plus, quand la marche est soulevée par disons l'enthousiasme, si on peut appeler enthousiasme, enfin qui s'exprime plus souvent par de la colère, c'est intéressant. Alors cette question de marche, ça s'est trouvé que je m'intéresse un peu à la paléo-anthropologie, enfin comme ça, les experts, les anthropologues aujourd'hui, quand ils font l'histoire des espèces, l'évolution des espèces vivantes, et on en parle beaucoup parce qu'avec la biodiversité, il faut les maintenir en vie, enfin le plus possible, etc. Et donc dans cette évolution des espèces, on voit apparaître à un moment donné une espèce qui va devenir, si on la suit, l'homme d'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'homo sapiens. Or, ce qui est, d'après les experts, bon, moi j'y connais rien, mais ce qui est intéressant, c'est que le premier signe de cette bifurcation en dehors du monde, on pourrait dire des gorilles, enfin les grands singes, les chimpanzés, etc. Les experts s'occupent de ça, quoi. Cette première séparation qui va nous mener jusqu'à l'homo sapiens aujourd'hui, ce qu'on appelle les anthropoïdes, elle se fait en descendant des arbres et en posant les pieds sur terre. Il y a donc des animaux, enfin des animaux, c'est pas tout à fait des animaux, c'est plus des animaux, mais qui commencent à ne plus se trimballer dans les arbres avec quatre mains, ou on peut dire, on dit deux pieds et deux mains, mais en fait c'était les pieds servaient aussi bien autant que les mains à s'agripper aux arbres, etc., etc. Et tout d'un coup, on dissocie cette chose-là, on pose les pieds par terre et on peut se tenir debout. On pose les pieds par terre, on se tient debout, et évidemment, on va pas rester debout planté du matin au soir, et donc on bouge, on marche. Et c'est intéressant parce que quand on étudie ça en détail, on se rend compte que finalement l'homme est marqué dans sa spécificité depuis 7 millions d'années par la marche. La marche, c'est ce qui nous distingue des autres bipèdes, enfin, mais pas bipèdes, non, des autres animaux comme les singes, enfin, ceux qui se servaient des bras et des jambes pour s'accrocher aux arbres, etc. Donc, on peut dire aujourd'hui que la marche est un élément absolument essentiel à la compréhension de l'homme, et on peut la retrouver, ou on la retrouve, dans tout ce qui est important pour la vie de l'homme. Et donc, évidemment, quand j'entends parler d'une manif, ou quand je vais participer à une manif, je pense de suite à la marche, comme beaucoup d'ailleurs, comme les CRS aussi, qui demandent à connaître le déroulement de la marche pour nous faire marcher, nous faire tourner en rond le plus possible tranquillement, quoi, pour nous enfermer presque, alors que la marche c'est le contraire. Et donc, quand on part se mettre en marche, quand on part comme ça à une manif, Je pense qu'on rejoint cette longue histoire de la création de l'homme. La création au sens des paléo-anthropologues d'aujourd'hui, pas la création dans la Bible où le bon Dieu fabrique un bonhomme et une bonne femme. Non, pas du tout. Donc, il y a à l'intérieur de nous cette présence permanente de ce qui fait le cœur même, la différence. Une différence, disons, pas unique, mais une différence absolument essentielle entre l'homme et les animaux, c'est que nous, on marche sur nos deux pieds. On est accroché au sol, mais c'est pour marcher. Après, on continuera d'ailleurs, semble-t-il, pendant un certain temps, à se trimballer dans les arbres, mais ça sera davantage en s'accrochant uniquement avec les mains. Les pieds, au fil des millénaires, au fil de l'évolution, ne servaient plus qu'à se poser sur le sol. Et je trouve que c'était extrêmement intéressant de se dire que quand on part se mettre en marche à une manif, par exemple, on est là, on est pleinement un être humain. On est pleinement homme et femme, homo, qui va s'appeler un jour homo erectus, homo néandertalien, etc., etc., peu importe. On a cette marque. On devient vraiment homme et femme, on devient vraiment homo sapiens quand on participe à une manif. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous... Ben moi, je sais pas, ça me donne de l'énergie, ça me fait plaisir, quoi. On se sent vraiment, à ce moment-là, on peut se sentir quelqu'un et ça nous encourage à continuer. Donc, avant de continuer d'ailleurs, on va s'arrêter une seconde.
Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Oh, oh, oh. Olha o sofrimento que vem cá de dentro. A nossa terra está a morrer. Olha o tormento que vem cá de dentro. A nossa terra está a sofrer demais. Oh, 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 oh.
Olha aquela mamã, já não tem lágrimas, já não tem lamento. A nossa terra está a morrer.
Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola.
Thank you.
viola é tão linda, tão rica e tão grande, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola.
Corde 1222, Michel Bonnet. Nous continuons, on disait, on parlait de la marche comme propre de l'homme, et ça, la marche en relation avec ces manifs qui sont en train de se mettre en place et qui vont bousculer sans doute pas mal de choses, enfin on l'espère. Et je disais que dans l'évolution des êtres vivants, l'homme avait comme caractéristique depuis de marcher, une marche de l'homme, et une marche qui a commencé, d'après les paléontologues, il y a 7 millions d'années. Ça fait un paquet, c'est 7 millions, ça en fait des kilomètres. Et en plus, cette marche, elle a, au cours des 7 millions de ces 7 millions d'années, elle a amené l'être humain sur l'ensemble de la planète. C'est une marque de notre monde actuel, justement, comparé aux autres, à d'autres époques, c'est que là, maintenant, avec la marche, on a occupé l'ensemble de la planète. On a fait le tour de la planète, et donc, on est véritablement, je dis pas en possession, mais enfin, on connaît tout le domaine qui nous a été offert. Et c'est intéressant de voir cette évolution, parce que ça pose de sacrés problèmes. Par exemple, bon, on peut sourire, mais quand on voit que maintenant on est arrivé au bout de la planète et que l'étape suivante, il y en a qui veulent nous dire, eh bien, on va aller sur la Lune ou on va aller sur Mars, etc. Mais là, on va pas y aller à pied. Oui, et donc ça pose des problèmes au point de vue philosophique. Est-ce que l'être humain ne va pas changer complètement ou profondément en changeant de planète ou en partant voyager sur d'autres planètes? Enfin, derrière cette notion de marche à pied, et il y a quelque chose auquel il faut faire attention. Ben, en attendant, évidemment, on fait nos marches ici sur place. Mais il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est que la marche, c'est véritablement une marche avec les pieds. C'est pas comme avec les gorilles ou d'autres animaux où les mains, on marche à moitié avec les mains, les pieds, on sait pas si c'est des mains ou des pieds, etc. Là, véritablement, on marche avec les pieds. Et la marche, c'est le premier pas de ce qu'on appelle une danse. La marche, elle sert à nous amener d'un endroit à un autre, mais elle nous sert aussi à exprimer le fond de notre être en bougeant les pieds. En bougeant les pieds sur le sol qui nous est donné. Vous voyez, au niveau anthropologique, c'est extrêmement important, ce lien entre les pieds, le sol, et des pieds qui bougent. Des pieds qui nous amènent à la danse. Et la danse, de suite, c'est autre chose, un peu. Ça sort de la marche, c'est la suite de la marche, mais en même temps, elle nous amène à autre chose. Elle nous permet de nous exprimer, parce que qui dit danse, ben dit un peu plus de vie que la simple marche. La danse est liée à la joie, elle est liée à l'énergie, elle est liée en quelque sorte, si j'employais un mot que Raymond VII employait souvent, enfin employait, il parlait occitan, c'est pas pareil, mais l'enthousiasme. Hein, on a, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, la danse, c'est ce qui relie notre être le plus profond à travers en bougeant les pieds, ce qui nous relie à cette énergie qui nous dépasse, surtout si on se met dans une optique du XIIIe siècle avec, en se disant que cette énergie qui est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est une énergie qui est divine. Le sens du mot, je rappelle le sens du mot enthousiasmé, enthousiasmos en grec, c'était entrer dans le séisme de Dieu. Le séisme, la vie de Dieu, comme un séisme, une explosion de vie. Et la danse, c'est ça. Et c'est agréable d'ailleurs, on l'avait signalé, on l'a évoqué la dernière fois, de penser que justement, aujourd'hui, un des chants que les troubadours d'aujourd'hui nous offrent, danse, c'est prendre une danse qui permet à toutes les forces de l'être humain, toute l'énergie, de s'exprimer et de prendre possession du sol à travers les pieds quand on danse. C'était intéressant. Et j'évoquais l'anthropologie à ce sujet. Je me souviens quand j'étais, bon, c'est un peu vieux évidemment, mais enfin, quand j'étais étudiant en fac, à l'époque, on a eu un anthropologue de très haut niveau, très connu, et qui était en même temps prêtre jésuite, et qui s'appelle, vous le connaissez sans doute, Teilhard de Chardin. Et Teilhard de Chardin était un grand anthropologue, et ce qui était intéressant, c'est que lui, en plus de ses recherches, notamment en Chine, ou de ses réflexions sur l'arrivée de l'homme, l'évolution de l'homme, et la marche de l'homme, lui, il a essayé de réfléchir à où mener cette marche, cette évolution. Il s'intéressait à prendre, non pas l'homme en tant qu'individu, l'homme, la femme en tant qu'individu, et qui, à travers les fossiles, etc., montre qu'il est en train de mettre les pieds sur terre et de marcher, etc., mais il prenait l'homme au sens global du mot, l'humanité, l'être humain, l'humanité. Et il se dit, mais la marque de l'humanité, c'est de marcher, mais où elle va? Où va l'humanité? Cette marche, elle va arriver vers où? Et en analysant tout ce qui entre dans la marche d'un être humain, donc ce plein de vie, il est allé jusqu'à la fin à imaginer le bout de la marche dans ce qu'il appelait, lui, le point oméga, c'est-à-dire une explosion de la vie. Un peu comme un Big Bang, et bon, on peut pas imaginer qu'est-ce que c'est, mais une explosion de la vie où justement l'être humain passe à un étage différent, supérieur, qui est de type social, de type communautaire, que lui, bon, il était curé, il était prêtre, donc il employait le mot amour pour dire ça. Mais vous voyez, il relie la marche avec la totalité de la vie, de l'énergie qui est à l'intérieur de nous-mêmes, et une énergie qui doit nous enthousiasmer et qui nous porte à entrer dans la vie divine, et donc de voir cette marche de l'être humain comme une marche en avant, quoi. Vers un autre monde, vers un autre type d'humanité. Et c'est intéressant d'y penser, parce que finalement, ce que nous on cherche dans les manifs aussi, c'est un autre type de vie. C'est ne pas nous laisser enfermer dans la, je dirais, comme autrefois, comment dirais-je, on le met trop au boulot dodo, enfin, enfermé, si on peut dire, dans une sorte de prison. Et voilà. Donc, avec ce concept de marche lié à la manif et à cette vie en nous, on rejoint quelque chose qui est profondément humain. On s'arrête un petit moment si vous voulez bien. You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I could see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog been snooping around my door. You ain't nothing but a old hound dog snooping around my door. You can wag that tail, baby, look cute all you want, but I ain't gonna feed you no more.
I'm telling you, you better listen.
Cordes 1222, Michel Bonnet. Je disais donc que, en réfléchissant à cette place de la marche que l'on va, on est en train de vivre ces jours-ci en participant aux manifs, plus ou moins, hein, et qui évolue naturellement vers la danse, puisque c'est, disons, quand on a un peu d'énergie en plus, on se met à danser. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas si vous... J'ai été frappé d'une chose en voyant les reportages à la télé sur les différentes manifs. Je trouve que, depuis quelque temps, on voit de plus en plus de jeunes, surtout, mais de gens qui dansent pendant les manifs. En plus de simplement de marcher, de se déplacer, il n'y a pas que ça. Il y a aussi. Je trouve ça très sympathique, extrêmement sympathique d'ailleurs, parce que finalement, la marche c'est le début de la sortie en nous, sortie de nous, de ce trop-plein de vie qu'on a. Et la danse, c'est l'idéal. C'est ça. C'est le trop-plein de vie. C'est-à-dire que on laisse l'énergie qui était dans nos pieds remonter dans tout le corps, cette énergie qui vient de la terre, hein, de la terre sur laquelle, de la planète, du cosmos, hein, elle remonte en nous comme la sève dans les arbres, et elle va jusqu'au bout des doigts, et on danse, on bouge, etc., etc. Et donc c'est intéressant de voir cette évolution de la force dont on a besoin pour marcher, qui s'exprime dans la plénitude, dans l'explosion de la vie en nous. Et cette explosion de la vie, comment elle s'exprime dans une manif, par exemple, et dans la vie de Raymond VII aussi, c'est pour ça que j'hésite pas à mettre les deux ensemble, à faire un lien entre Raymond VII et nos manifs d'aujourd'hui, ça s'exprime à travers la colère. Que ce soit dans les manifs d'aujourd'hui, même si on est content de rencontrer des copains, on discute, etc., et on peut jouer de la musique et on va danser et tout le reste, mais au fond, ce qu'il y a, c'est que on est là pour revendiquer, pour dire quelque chose, parce que on a un trop-plein qui veut bouleverser la façon de se situer dans le cosmos, quoi. On a à l'intérieur de nous-mêmes donc cette colère qui monte et qui n'accepte pas qui n'accepte pas qu'on nous oblige à rester sur place, parce que quand on regarde les manifs d'aujourd'hui vis-à-vis de la retraite, à quoi ça, à, qu'est-ce que ça signifie en, en, en profondeur, hein, et c'est que on nous enlève, on nous oblige à rester au travail, on veut nous obliger à rester au travail plus longtemps, et donc on veut nous empêcher de vivre aussi longtemps qu'on le voudrait ou qu'on le souhaiterait. Et c'est ce retrait, on nous enlève des années de vie, des années de vie, de liberté, de, des années où on ne peut pas laisser l'énergie qui est en nous laisser s'exprimer. Parce que quand on est au travail, même si aujourd'hui le travail évolue, même si bon, il y a des changements, on n'est plus comme au temps de Charlie Chaplin où on faisait c'est plus du exactement ça, quoi. Mais même si on pense au travail à la maison, sur son ordinateur, etc. On peut pas appeler ça de la liberté au sens strict du mot, quoi. Et par rapport à une balade, par rapport à de la randonnée, par rapport à des visites, etc. C'est une autre façon. Et donc, on veut sortir de ce carcan de la vie, en quelque sorte de la vie de travail, hein, pour pouvoir laisser cette liberté qui est inhérente à la notion de vie, parce que la vie, on ne sait pas où ça va aller, et on ne sait pas où ça va nous mener, ça c'est clair. Et vous voyez, cette colère, c'est lié à la marche, c'est lié à ce mot que j'employais, l'enthousiasme. Hein. En fait, si on n'est pas un peu enthousiasmé, on ne va pas participer aux manifs. Hein. On reste chez soi. On dit « Oh, le monde va trop mal. Oh, j'en ai marre, ça ne servira à rien. » Et puis, crac, non, il faut qu'à l'intérieur de nous, il y ait un trop-plein qui ait envie d'exploser. Quoi. Mais Raymond VII, c'était exactement pareil. Si on se souvient, quand on se souvient de Raymond VII... à la fin de sa jeunesse, enfin en 1215, hein, quand il va au concile de Latran, il voit qu'on annonce la mort de sa dynastie, la dynastie des Raymond de Toulouse, que son père est exilé et donc il pourra plus marcher sur le sol, disons du comté de Toulouse. Il faut qu'il aille à l'étranger. C'est une véritable mise à mort. Et là, il explose. Ouais, là, à l'intérieur de lui-même, c'est une colère. Bon, tout le monde peut très bien comprendre ça, quoi. Et il va avoir la même colère. J'en parlais l'autre jour dans la conférence que j'ai fait au sujet de Cordes. Hein, lorsqu'en 1222, avant de lancer la fondation de Cordes, quoi. Il est bouleversé par une colère monstre en voyant que son père est mort et que on refuse de lui donner des funérailles. C'est affreux. Il est mis comme un déchet à pourrir en dehors de ce qu'on appelle la terre, en dehors du sol chrétien, le seul vrai, le seul valable, si on peut dire, dans la mentalité de l'époque. Et donc, il est réduit à rien, à néant. Il est là. Et pour Raymond VII, c'est totalement impensable. Tout son être, du plus profond de ses tripes, il explose. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met en route. Il se met en route vers Avignon, vers Beaucaire. Il se met en route vers la lutte. Enfin, c'est ça, quoi. Hein. Marcher, lutter, c'est toujours la même chose que qu'il y a. Et donc, quand on regarde la vie de Raymond VII, on voit que vraiment, c'est la vie de quelqu'un qui a été en lutte, peut-être pas tout le temps, mais enfin une bonne partie de sa vie, à la fois à Beaucaire, pour essayer de reprendre le pouvoir sur une partie de son patrimoine, mais également en 1229, quand il va signer le traité de Paris, et où il sera reconnu comme comte. Ça a été une longue lutte, de 1222 jusqu'à 1229, pour retrouver véritablement son être même, qui est d'être comte de Toulouse. Et il continuera comme ça, de colère en colère, j'ai envie de dire. Et si on regardait ça du point de vue de l'Église, on dirait d'excommunication en excommunication. Mais l'Église, elle voit ça comme une condamnation, et donc elle, ça ressemble à une un enfermement en quelque sorte. Hein. Lui, au contraire, c'est un coup de fouet pour être un peu plus encore en colère, un peu plus fortement enfoncé dans la lutte et finalement donner la place principale à la vie. Et là-dedans, on voit Raymond VII rejoint à travers cette colère, il rejoint une partie importante de la population du comté de Toulouse qui est en colère justement contre l'Église. Contre l'Église parce que d'abord, ça fait assez longtemps que l'Église, avec ses lois, avec ses règlements, avec le rythme de vie qu'elle impose aux populations, les temps de travail, mais les temps de prière, les carêmes, on n'a pas le droit de faire l'amour, on n'a pas le droit de voyager, etc., etc., on n'a pas le droit de manger de la viande, enfin, tous des tas de règlements qui empêchent la vie de s'écouler normalement, qui nous empêche en quelque sorte de marcher pour aller de l'avant, et donc la population, elle veut casser ce carcan qui vient de l'Église, et donc elle est en rogne, elle est en colère par rapport à l'Église en permanence, et Raymond VII rejoint cette colère pour l'aider à justement réoccuper le sol, la terre d'Occitanie, la réoccuper comme ils en ont envie. Bon, ça marchera pas très bien, mais voilà, c'est très lié. Donc vous voyez, je trouve que c'est important de mettre en lien cette notion de marche et cette notion d'explosion de la vie à travers la colère qui soutient la marche. On s'arrête de nouveau un petit moment. Cordes, 1222, Michel Bonnet. Nous continuons d'essayer ce qui est le but de ces émissions cette année, de faire le lien d'une part entre la découverte ou une meilleure vision de Raymond VII en tant que fondateur de Cordes et comte de Toulouse, bref, et puis notre vie moderne. Il ne s'agit pas simplement de s'amuser à penser à autrefois, il faut regarder la vie moderne. La vie moderne, cette semaine, bon, elle est marquée d'une façon tout à fait particulière par ces manifestations contre les projets gouvernementaux sur les retraites. Et le mois prochain, comme vous le savez peut-être, enfin vous l'avez vu sans doute, la deuxième conférence de découverte de Raymond VII, elle va porter sur le regard de Raymond VII vis-à-vis des cathares. Et c'est donc, on reparlera de cela plus en détail, mais je trouve intéressant d'évoquer les cathares en lien avec ce que je disais tout à l'heure au sujet de l'énergie qui nous pousse à manifester, cette énergie qui est de la colère qui nous pousse et qui nous fait entrer dans la colère qui est un des atouts de la vie de Dieu. Et les cathares par rapport à l'Église, et qui étaient toujours, ils étaient toujours en colère vis-à-vis de l'Église, et se disputaient, enfin, etc. Ils étaient condamnés, ils étaient même envoyés au bûcher. Alors, ça rigolait pas non plus, hein. Et donc, on est frappé quand on voit, quand on essaie d'analyser ce que disaient les cathares à travers les inquisiteurs, peut-être, et enfin, on peut retrouver un peu de ce qu'ils disaient, etc. Et pour eux, ce qui était important, c'était d'être fidèle à l'esprit du fondateur du christianisme, à l'esprit du Fils de Dieu. Mais Jésus, pour eux, c'était le Fils de Dieu, le Père, c'est bien, mais le Fils, en tant que Fils. Et donc, se vivre soi-même en tant que donc prolongement de ce Jésus-Christ qui était poussé par un style de vie, des habitudes, des façons de se situer dans le monde vis-à-vis de tout ce qui fait la vie, vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme, bien sûr, mais également tout ça, le travail, le loisir, etc., etc. Et donc, pour eux, ce qui était important, c'est de vivre donc selon l'esprit. L'esprit de Jésus, l'esprit du Fils de Dieu. C'était extrêmement important de se rendre compte de cela. Et l'esprit, ça renvoie au souffle, au vent. Enthousiasmer, c'est entrer dans le séisme, entrer dans le souffle de Dieu. Hein. Et justement, bon, on n'est pas tous, on n'habite pas au bord de la mer ici, mais enfin quand même, on sait très bien que si on allait se balader un peu sur le bord de la mer ou sur l'océan, tiens, en fait, l'océan, vous avez vu que hier, l'ONU a réussi à se mettre d'accord sur une base de protection des océans. On va pouvoir penser l'avenir de l'humanité en lien avec l'océan. Bon, passons là-dessus. C'était pour montrer quand même qu'on ne s'éloigne pas de l'actualité. Mais justement, quand on veut partir en voilier sur l'océan, le vent, on est obligé de le regarder. On ne peut pas retrouver notre chemin, on ne peut pas rentrer au port, on ne peut pas aller là où on veut aller si on ne regarde pas, si on ne sait pas comment, dans quel sens souffle le vent. Et l'esprit, c'est ça, c'est le souffle qui est à l'intérieur de l'être humain et à l'intérieur d'une communauté, d'un rassemblement, etc., et qui pousse de l'avant. Or, ça, c'était le critère numéro un pour les cathares. C'est en fonction de ça, de ce lien avec l'esprit, de se laisser pousser, se laisser prendre par l'esprit du Fils de Dieu. C'était ça leur critère. Et si, voilà, c'est résumé très rapidement, mais c'est ça. Or, en face de cela, qu'est-ce qu'ils avaient? Eh bien, ils avaient en face de, à cette époque-là, une église, donc un rassemblement de gens qui, officiellement, n'arrêtaient pas de dire « Nous vivons selon l'Esprit de Dieu ». Nous vivons selon le Saint-Esprit, et il y a que ça qui est important, etc. Et le problème, c'est que au lieu de, enfin, de laisser l'esprit déborder en quelque sorte de l'énergie de chacun surgir comme une source du sol humain que représente l'humanité, il disait non, ça, on sait cet esprit, on sait exactement qu'est-ce que c'est. Dans quel sens il va, parce que ça a été écrit. Et donc, l'Église, à cette époque-là, elle faisait tout un renouveau pour coller au texte des évangiles, au texte donc qui sont la parole de Dieu, qui sont figés. Vous voyez, ce renvoi permanent au commandement écrit à travers la Bible, très rapidement, on a dit, il n'y a pas que la Bible, il y a aussi les commandements de l'Église, parce qu'on les a adaptés, etc., sous prétexte d'adapter et de rendre plus facile à comprendre. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a mis par écrit. Et donc, il y avait une lutte, la lutte véritable, entre les cathares et entre l'Église, qui était absolument irréconciliable, tous les deux. On le comprend très bien, puisque les cathares, d'un côté, ou les hérétiques en général, je parle des cathares parce que c'est un peu la mode, mais disons les hérétiques en général, eux, leur critère c'était l'esprit, donc la liberté qui va, on ne sait pas où va nous amener l'esprit, demain on ne sait pas comment on va vivre, comment on va manger, etc. On suit les pressions de la vie, les circonstances, la sécheresse, les inondations, les tremblements de terre, et tout ce qu'on veut, ou rien du tout, le calme aussi. Hein, voilà. Mais en face à cet esprit, qu'est-ce qu'ils avaient? Un agglomérat, une église qui, elle, disait l'écrit, le livre, ça bouge pas, faut lire les manuscrits, faut absolument obéir à ce qui est écrit. Vous voyez, c'est absolument irréconciliable. D'un côté, c'est le jaillissement de la liberté, d'autre, c'est l'obéissance. Et là, l'Église a essayé de faire croire, certains historiens aujourd'hui voudraient nous faire croire que les cathares ont essayé de faire une église opposée à l'église catholique de l'époque. Ils pensaient pas du tout fabriquer une église avec ses structures, avec des évêques, avec un clergé et tout le reste. Il y avait bien sûr, il faut des animateurs, des choses comme ça, mais ils ont jamais pensé à faire une église alternative. Vous voyez? Ces deux mondes-là ne pouvaient pas s'entendre et c'était le clash, évidemment. L'Église, elle a solutionné ça avec la force. On tue, on met en prison, on éjecte, on sort de la communauté tous les hérétiques et on les rend absolument inopérants. Et c'est un peu ce qu'on voudrait nous faire ici, ce qu'on voudrait nous imposer aujourd'hui. Regardez, quand on voit les députés à l'Assemblée nationale, comment ils se brouhaha, une pagaille, pour se mettre d'accord sur quoi? Sur des textes qui vont nous enfermer. Et ils sont pas, on n'a pas l'impression qu'ils pensent à nous, qu'ils pensent aux citoyens qui les ont élus, etc. On ne sait pas à quoi ils pensent finalement, tellement c'est la pagaille à l'Assemblée nationale. Et donc, on est là, on a le risque d'être enfermé dans un écrit, et c'est ce qu'on voudrait. Voilà, on travaille jusqu'à tel âge, donc on est enfermé dans les règlements de l'entreprise, les cadences de production, et puis on est enfermé, on peut pas bouger comme on veut, donc les vitesses qui sont contrôlées quand on bouge, les vitesses sur la route, etc. Enfin, tout est comme ça. Et petit à petit, on le voit On en entend parler, quoi, mais avec l'informatique aujourd'hui, avec le développement de la surveillance, disons, à travers les smartphones, à travers TikTok et tout le reste, bon, on risque de se laisser enfermer. Et voilà, ce que nous rappelle ce lien entre nos manifs aujourd'hui, qui sont finalement... une revendication d'un peu plus de vie libre, d'un peu plus de bonheur de vivre, comme on le voit, la vie à l'époque de Raymond VII, qui était aussi pour, de la part des hérétiques ou des cathares, etc., des populations, la joie de vivre dans l'esprit du fondateur, dans l'esprit de Jésus, c'était, on se retrouve dans une attitude qui... Et finalement, grosso modo, la même. Et c'est l'attitude, on marche de l'avant, vers où ? On n'en sait rien. C'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que on va vers une utopie. Comment seront les cadences dans les entreprises ? Quel sera le travail à domicile avec mon ordinateur dans 20 ou 30 ans d'ici ? On n'en sait rien. Moi, quand j'étais étudiant, jamais j'aurais pu imaginer que je pourrais travailler avec un ordinateur chez moi, et ça ce n'est que une image parmi d'autres, et c'est pareil pour nous, on fait cette expérience là. Donc voilà, aujourd'hui de nouveau ce lien entre les manifestations actuelles et la vie profonde d'autrefois en pays cordé avec Raymond VII et tous les hérétiques, ça nous redit encore une fois, il faut danser. Il faut danser ensemble, il faut que l'esprit vienne prendre possession de tout notre être. Eh bien, c'est ce que nous souhaitons, en espérant que ces manifs et toute cette suite de la vie nous permettent d'être de plus en plus épanouis dans la suite de cette énergie qui nous pousse en avant. C'était Corde 1222 avec Michel Bonnet. Hey, let's get it on.
CFM Cordes. CFM, l'esprit rock.